Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4, tous les mercredis de 18h à 19h. Ce soir, c'est BDS Provence, le comité local de la campagne BDS France, qui propose cette émission. Un petit rappel rapide, BDS Provence a une page Facebook intitulée BDS Provence, sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond, où vous pouvez aussi nous laisser un message en privé si vous avez des questions ou si vous désirez participer à nos actions. La campagne BDS France a un site, c'est www.bdsfrance.org, avec de nombreuses informations également, et nous avons aussi une boîte mail, bdsprovence@orange.fr. Alors ce soir, je vous propose d'écouter d'abord un enregistrement de l'émission À voix nue qui a été diffusée sur France Culture et qui était consacrée, c'était au mois d'avril dernier, consacrée à Elias Sambar. Je rappelle qu'Elias Sambar est palestinien, historien, poète, essayiste. Il a participé à plusieurs négociations dites de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il a été ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO et il est maintenant le commissaire de l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde » qui est présentée à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'à l'automne prochain. Ne manquez pas d'aller voir cette exposition qui est très très intéressante. Alors en fait, dans cette émission À voix nue, il y a 5 épisodes qui sont consacrés à Elias Sambar. Nous allons écouter l'épisode numéro 4, dans lequel Elias Sambar nous plonge dans les coulisses des négociations entre Israéliens et Palestiniens dans les années 90. Et nous aurons probablement l'occasion d'écouter les autres épisodes de cette émission un peu plus tard. Donc je vous laisse écouter, ça dure une petite trentaine de minutes, nous nous retrouvons tout de suite après.
À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Elias Sambar, curieux et non spécialiste.
Quatrième épisode, artisan de la paix. Bonsoir Elias Sambar.
Bonsoir.
J'aimerais ce soir, après avoir évoqué vos nombreux amis hier, j'aimerais ce soir que vous nous parliez de votre regard subjectif sur les négociations pour aboutir à la paix au Proche-Orient. Vous avez occupé un certain nombre de fonctions à ce titre. Vous avez participé à la conférence de Madrid en 1991. Vous avez été membre de la délégation palestinienne aux négociations bilatérales de paix à Washington en 92. Vous avez été nommé en mai 93 à la tête de la délégation pour parler sur la question des réfugiés palestiniens. Puis, vous avez été ambassadeur de la Palestine pour l'UNESCO pendant 15 ans. C'est donc de cette expérience de l'intérieur que j'aimerais que vous nous parliez. Bien entendu, expérience de l'intérieur et puis regard rétrospectif aujourd'hui sur ces années. Mais pour commencer, peut-être faut-il parler d'une figure que nous avons juste évoquée jusqu'à présent et qui est une figure importante du côté palestinien, qui a été le chef de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, pendant très longtemps, Yasser Arafat. Quelle relation entreteniez-vous avec lui ?
Une très belle relation affectueuse. Et ça ne sonne pas de façon classique dans les engagements politiques, très affectueuse. Il avait une relation très forte et avec la capacité de faire penser à chaque interlocuteur qu'il existait en tant que tel, que c'était pas juste un numéro dans un groupe ou dans un mouvement. C'est un homme que nous avons, je dis nous, hein, parce que c'est vrai, jusqu'à présent, que nous avons beaucoup aimé parce qu'il a porter l'obsession, et je crois que si on voulait définir une très longue, très très longue pratique jusqu'à son décès, et c'est un homme qui a porté l'obsession de ramener notre nom à la visibilité. Ce qui restera de Yasser Arafat un jour, c'est que c'est l'homme qui a rendu le mot Palestine et le nom palestinien visible. Et un homme qui avait une intuition politique. Je vous raconterai deux ou trois choses, c'est tout, et vous comprendrez de quelle nature d'homme c'était. Il y a eu une fois un entretien avec la télé, j'étais là, et c'est Saeb Erekat qui était un de ses conseillers, qui était en train de parler, et Saeb Erekat, à un moment, dit « Voilà, la Palestine, c'est l'islam, le christianisme. » Et immédiatement, sur Arafat l'interrompt et lui dit « Saeb, dis les choses dans l'ordre ». L'ordre, c'était « Tu commences par dire le judaïsme, tu enchaînes avec le christianisme et ensuite tu finis avec l'islam ». Ça n'était pas formel. C'était cette perception profonde chez Arafat qui était que nous étions cette pluralité-là, que la Palestine, c'était cela. Et ça, c'est fondamental pour moi et pour des millions de Palestiniens. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas eu, c'était un mouvement quand même, on a parlé de lutte armée hier, vous m'avez posé la question, je vais y revenir très vite tout à l'heure. C'est un mouvement dans lequel se retrouvaient des dizaines de milliers d'hommes et de femmes en armes. Nous n'avons pas eu de liquidation interne. C'est quand même une chose très, très particulière dans tous les mouvements de guérilla. Il n'a pas liquidé, il n'a jamais liquidé un opposant. Et c'est fondamental. Parce que l'idée était, nous sommes une pluralité, donc une diversité d'opinions et d'idéologies. Et ce qu'il disait, je suis le garant précisément de cette diversité. Et puis il y a les moments où je l'ai vu réagir avec colère. Il a réagi toujours sur deux choses avec colère, sans aller jusqu'à liquider qui que ce soit. Cette question que je vous dis sur l'importance des trois constituantes, des trois religions constituantes de la Palestine, est la question des femmes. Il pouvait devenir extrêmement cassant si la question des femmes était remise en question. Et c'est quand même formidable par rapport à toute cette période que nous avons vécue. Et je me souviens de trois petits échanges. Et les deux premiers, j'étais seul avec lui. Et c'est très rare, parce que souvent, quand on allait le voir, il y avait les gardes de corps, les conseillers, bref. Là, je me suis retrouvé deux fois seul avec lui. Et c'était à la suite d'une campagne mais virulente et littéralement obscène qui le critiquait. D'ailleurs, de façon très, très, très bizarre, souvent ceux qui le critiquaient reprenaient contre lui des arguments qui traditionnellement étaient utilisés contre les Juifs, et notamment contre ses lèvres charnues et son nez crochu. Ça, je l'ai entendu. Deux gens qui avaient subi ce racisme-là et qui n'attaquaient que sur cette question de sa physionomie. Bref, donc je suis avec lui, il y avait eu une attaque très très virulente contre lui, menée également par certains chefs de l'OLP, donc internes. Et j'étais seul et je lui dis, tu sais, il faut que je te dise quelque chose, nous sommes absolument indignés, je suis pas le seul, nous ne permettons pas qu'on parle comme cela de toi. Et il m'a dit, non, arrête, c'est pas ça. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, il faut que tu comprennes une chose, moi, quand l'intérêt de mon peuple est en jeu, je n'ai pas d'amour propre. Ça a été une des grandes leçons politiques que j'ai reçues, moi. Je peux avaler des couleuvres quand l'intérêt de mon peuple est en jeu. Et pendant les négociations, nous allons y venir, je n'ai fait qu'avaler des couleuvres de la part des délégations israéliennes. La deuxième chose qu'il m'a dit, qui était très belle, il m'a dit, tu sais, la terre entière pense que je porte ma cause. Ils n'ont rien compris. Toute ma force vient que c'est ma cause qui me porte. C'est pas moi qui porte la cause. Et la troisième est un échange avec Mahmoud Darwish le jour de son décès. Nous étions tous les deux très tristes. Il m'a dit, tu sais pourquoi nous sommes tristes? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, non. Nous l'aimions beaucoup parce que nous lui ressemblons. Et ça, c'est une image que le monde n'a pas perçue. Cette idée à quel point cet homme nous ressemblait, à quel point nous nous retrouvions un peu dans ses traits, dans sa fonction et sa façon de fonctionner. D'ailleurs, à ce jour, je peux, et j'en finirai par là, chaque fois que les Palestiniens sont dans l'impasse, jusqu'à présent, à Jérusalem ou n'importe où ailleurs, on n'entend que des gens dire « Où est-il ?» S'il avait été là, les choses se seraient passées autrement.
Donc, de l'autre côté, certains disent la même chose sur Rabin.
Il y a une relation amoureuse très très forte avec cet homme. Et je crois qu'on nous disait souvent, ah, il n'est pas légitime puisqu'il n'a pas été élu. Vous savez, cette vision très très formelle du fait électoral, eh bien, il a été plus qu'élu, il a été aimé. et aimé massivement par son peuple. Voilà ce que je voudrais de Arafat. Maintenant, je voudrais, moi, vous dire une chose. Vous m'avez posé, lors de la précédente séance, vous m'avez demandé, une des séances précédentes, si j'avais rejoint la lutte armée dans l'OLP. Eh bien oui. Quand j'ai rejoint la lutte armée, d'ailleurs nous n'appelions pas l'organisation l'OLP, nous appelions ça la résistance palestinienne. Dans notre tête, nous rejoignions la résistance. Et nous avons été des dizaines de milliers de jeunes à le faire. Alors la question qui se pose, comment quelqu'un qui est parti de la résistance telle que je la décris se retrouve à un moment, non pas nommé, ça c'est pas moi qui me suis nommé, mais acceptant de négocier.
La lutte politique.
Toute la question du processus de paix est là. Et ce n'est pas seulement mon cas personnel. Il faut dire que nous avons franchi beaucoup d'étapes avant d'arriver à l'idée d'un vote en 1988 à Alger, que désormais nous allions résoudre le conflit par voie diplomatique et non plus par la voie des armes. Et d'ailleurs, la formule, le texte en usage à l'époque dans les résolutions était « Nous édifierons notre État sur toute parcelle de notre patrie qui aura été évacuée ou libérée. » Et on a eu pour la première fois de notre vie également recours au vote, et non pas à la forme consensuelle. Donc il y a eu une majorité qui a dit « Oui, on y va », et une autre qui a dit « Non ». C'est la première fois, hein, dans toute l'histoire du mouvement palestinien, on fonctionnait en consensus parce que, comme je vous l'ai décrit, nous étions un regroupement d'idéologies et de sensibilités politiques. Il fallait à tout prix maintenir en permanence la cohésion du corps tout entier, ne pas perdre un des membres. À Alger, Arafat a pris ce risque sur une phrase très simple. Là, les réunions étaient houleuses et à un moment, il s'est levé et il a dit « Écoutez, je vais vous dire, c'est très simple. » Les négociations vont se faire. Nous étions au lendemain de la guerre d'Irak. Les Américains ont déjà lancé le procès. Ils vont se faire. Donc une partie va se jouer, dont nous sommes l'élément central. Choisissez. Nous allons voter. Choisissez. Vous voulez être sur le terrain ou être dans les gradins et regarder la partie. Vous voulez jouer ou regarder la partie qui joue votre sort et votre vie. Et c'est comme cela que le vote a été acquis. Mais je reviens à mon cas personnel. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années où nous étions partis, et il faut le dire, de deux choses en ce qui me concerne et vraiment en ce qui concerne toute une génération qui fut la mienne. Nous étions partis au départ de la destruction de ce que nous appelions l'entité sioniste. Vous avez beaucoup de gens maintenant qui ont négocié et qui disent qu'ils n'ont jamais été contre la négociation. C'est pas vrai. C'est des gens qui nient qu'ils ont évolué et qu'ils ont changé. Moi, je suis parti de l'idée qu'il fallait détruire l'entité sioniste parce que c'était une entité fascisante et totalitaire et qui nous avait dépourvus.
Attendez, l'entité sioniste, c'est l'État d'Israël ? C'est ça, allait
oui,
jusque-là ?
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Je reprends le vocabulaire en cours. Hein,
je
l'entité
traduis
sioniste.
À ma façon.
En 69, donc très vite après notre engagement, le Fatah publie un document qu'il intitule « La Palestine démocratique et les Juifs ». Dans ce document, que Jérôme Lindon a été le premier à faire traduire aux éditions de Minuit. Le Fatah dit, voilà ce que nous proposons comme solution. Nous proposons comme solution un État laïque et démocratique dans lequel toutes les personnes présentes sur le territoire de ce qui fut ce qu'on appelle la Palestine historique, c'est-à-dire celle du mandat britannique, seront citoyens à part égale avec devoirs et obligations communes, sans distinction de leur religion, de leur race et de leur couleur. Et je fais partie de toute une génération qui s'est précipitée dans ce créneau. Donc nous étions passés de la destruction de l'entité à l'idée de l'État démocratique. L'État démocratique a été allègrement rejeté par les Israéliens et les déclarations étaient « c'est encore un de leurs pièges ». Il nous propose cette formule pour pouvoir nous détruire encore plus facilement. Et vous savez, le conflit est reparti de plus belle avec des combats, des bombardements, toute la situation que maintenant tout le monde connaît. Donc, pour vous dire, quand nous sommes arrivés à la séance de Madrid, j'étais déjà, et encore une fois, pas seul. Je ne suis pas en train de parler d'un cas unique qui serait moi. Nous étions déjà très nombreux à être passés de l'idée de la destruction de l'entité à
l'acceptation de deux États.
Non, à l'idée du droit.
Oui, mais qui passait par, en tous les cas, l'acceptation de l'existence de l'État d'Israël et de la création d'un État palestinien.
Et dans le droit, l'idée de
proclamée en 88.
Et dans l'État, l'idée de l'égalité. C'est à ce propos, c'est comme ça que je suis parti. Et bien avant Madrid, c'est moi qui étais chargé, de façon très confidentielle, de préparer tous les dossiers de la négociation. Donc pendant 2 ans, nous avons beaucoup, beaucoup travaillé. Il y avait 89 centres ou chercheurs qui ont travaillé sur tous les thèmes parce que nous savions que nous allions négocier bien avant, juste après 88, et bien avant qu'on aille à Madrid pour aller à la réunion portant dans nos valises tous nos dossiers.
Juste, il faut rappeler, Yassin Bar, Madrid, ça a été la première conférence d'envergure après la guerre froide. Elle a été soutenue conjointement par les États-Unis et par l'URSS qui vivait alors ces dernières semaines. Et elle s'est déroulée du 30 octobre au 1er novembre 1991. Le contexte est celui du lendemain de la guerre du Golfe de 1991.
Donc, nous sommes entrés dans une phase avec une délégation extrêmement intéressante parce qu'elle était... Il n'y avait aucun diplomate professionnel dans notre délégation. Aucun. Nous étions tous des chirurgiens, des architectes, des restaurateurs, et des militants d'associations de droits de l'homme. Nous n'avions pas de... Bon. Je vous le dis parce que c'est un des traits de la négociation. Nous n'avons pas négocié comme des diplomates professionnels. Et la négociation s'est ouverte à un moment de changement monumental qui était que bien... que les Russes avaient annoncé leur présence, la négociation s'est faite sans les Russes. D'ailleurs, au bout de la deuxième session, ils se sont même plus fatigués à venir. On les voyait plus. Ils sont sortis de leur propre chef du jeu. Ça a été une catastrophe parce que ça a donné plein pouvoir à l'acteur et à l'intermédiaire américain. Là, je m'arrête sur un point de vocabulaire. Les Américains nous ont envoyé à la veille du départ vers Madrid 2 lettres. Une lettre qu'ils ont appelée la lettre d'assurance et une autre qui était une lettre de la procédure. C'est-à-dire, dans la première, ils nous disaient « voilà à quoi va aboutir votre négociation ». Ces lettres, on aurait pu nous les écrire. Les Américains nous ont fait penser qu'ils avaient adhéré à toutes nos demandes. Dans la deuxième, il y avait une procédure qui était machiavélique, puisque dans la deuxième, ils ont établit ce principe désastreux, et là vous avez la deuxième clé pourquoi les négociations n'ont pas abouti, que comme les questions étaient très complexes, nous allions négocier pour commencer les points qui pouvaient être résolus, et au bout d'une période intérimaire, nous aborderions les questions plus...
Je crois que c'était à Oslo, ça, en 93. C'était déjà à Madrid, ça ?
Oui, bien sûr. C'est avant de prendre l'avion, avant d'arriver en Espagne, nous avions déjà ces deux
des
documents.
Frontières du statut de Jérusalem, des colonies, des réfugiés.
Les colonies, surtout. Et, bien entendu, avec la disparition de la Russie du décor, la timidité de l'Europe et le silence de l'ONU, parce que c'était les 4 partenaires en principe, nous nous sommes retrouvés avec... un maître du jeu américain et des Israéliens qui avaient la mainmise totale sur l'horloge. La seule chose qui a été absente tout le temps de la négociation et qui était fondamentale, l'égalité n'a jamais été présente. C'est-à-dire les Israéliens, pendant 40 ans, 50 ans, 30 ans, tout le temps qu'on a négocié, n'ont pas une seule seconde pensé que nous étions égaux. C'est vrai que le rapport sur le terrain était inégal. Il y avait une armée d'occupation et des occupés. Il y avait des réfugiés dans les camps. Mais sur la table, si la négociation devait être pertinente et juste et efficace, elle aurait dû être menée sur une base d'égalité. François Mitterrand, qui n'était pas un ange de paix, ni un grand un homme favorable à la Palestine, avait énoncé à un moment 2 principes qui auraient pu débloquer les choses. François Mitterrand et la France, mais ils se sont pas battus après pour appliquer cela, ont demandé à ce qu'il y ait la simultanéité et la réciprocité dans la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aurait été la clé magique pour en finir avec cette histoire de période intérimaire. La réciprocité, c'est que chaque fois qu'il y a un pas palestinien, Israël, même si Israël domine, devra faire un pas analogue en face. Et la simultanéité, et c'est la clé, c'est que les deux pas devaient être faits en même temps. Parce que tant que ce n'était pas fait en même temps, les Israéliens pouvaient toujours dire « vous n'avez pas encore fait, à notre avis, ce n'est pas suffisant, etc. » Donc on ne fait pas. Si on avait appliqué ces deux principes, on aurait appliqué tout ce qui a été acquis dans les négociations, parce qu'il y a eu des choses qui ont été acquises. Et ça s'est arrêté là. La question des deux États aurait été une formidable porte de sortie. Pourquoi? Parce que ça nous aurait permis de résoudre ce problème très long, très vieux, en commençant, je dis bien, par une pratique d'un beau voisinage. Et à partir d'une invention de beau voisinage, on aurait pu aboutir à une chose plus importante que la paix dans les traités, qui était la paix dans les cœurs. Donc, la paix également peut sauter. C'est un traité, c'est un papier. Par contre, le but réel, si on veut résoudre ce conflit, c'est d'aboutir à la réconciliation. C'est autre chose que la paix. C'est-à-dire l'acceptation. Et je pense que l'idée des deux États aurait été un bon chemin pour aboutir en inventant un voisinage et qui dure et qui soit harmonieux et qui aboutisse à une forme de réconciliation, c'est-à-dire qui apaise et rassure.
Juste un mot par rapport à cette époque-là. Il y a quand même eu Oslo en 93. Oslo, c'est la reconnaissance mutuelle des deux parties. L'OLP par Rabin et Israël par Arafat à la veille des accords. Ça a été la poignée de main entre Yasser Arafat, leader palestinien à l'époque, hein, et ce premier ministre israélien Yitzhak Rabin qui a été assassiné 2 ans plus tard. On est le 13 septembre 1993 sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington devant le président américain Bill Clinton qui joue là encore les arbitres. Certains ont dit que rétrospectivement, que ces accords étaient biaisés, que de toute façon, ils ne pouvaient pas arriver à la paix et encore moins à la réconciliation. Mais pour le monde entier qui regardait à l'époque, c'était un formidable espoir de victoire. Premier point. Et deuxième point, si vous me le permettez, vous, je disais, c'est une vision de l'intérieur, nécessairement, donc c'est votre vision aussi subjective de ce qui s'est passé. Moi, il me semble, en vous écoutant, que vous renvoyez beaucoup aux États-Unis et vous renvoyez beaucoup à Israël. N'y a-t-il pas eu, malgré tout, des erreurs, voire des fautes du côté palestinien pendant cette période-là? Et si oui, lesquelles?
Bien sûr qu'il y a eu des erreurs, mais je commencerai par le premier point que vous soulevez, l'immense espoir qui est né à Madrid. Et j'ajoute, vous dites, un immense espoir pour le monde, pour les Palestiniens aussi.
Ben avant tout même, peut-être.
Voilà. Donc les gens y croyaient avant de devenir sceptiques.
Et les Israéliens qui voulaient la paix.
Voilà, vous voyez, avant de devenir sceptiques. Mais je crois que la meilleure réponse à cela... Parce que ça n'avait pas arrêté les attentats, ni la contestation, ni le fait qu'une partie des Palestiniens, comme une partie des Israéliens, refusaient d'aller jusque-là. C'est ce que Rabin a dit une fois. Je crois qu'il a signé son arrêt de mort quand il a affirmé cela. Il y avait eu un attentat très très dur dans une discothèque. Et Rabin avait dit « je vais réprimer comme s'il n'y avait pas de négociation de paix ». Et je vais aller à la paix comme s'il n'y avait pas d'attentat. Donc, ceux qui pensent qu'avec les attentats, je vais m'arrêter d'avancer sur le chemin de la paix, se trompent. Et Rabin a été assassiné par l'un des siens, c'est-à-dire par un citoyen israélien. Et je crois qu'il a signé ce jour-là son arrêt de mort. Le compte à rebours de l'assassinat a été lancé ce jour-là. Ils ont compris que ça pouvait se faire. Du côté palestinien, qu'est-ce qu'il y a? Un point avant d'arriver au côté palestinien. Je pense que le cancer, et aujourd'hui je n'ai même plus besoin d'argumenter pour le dire, le cancer qui a miné toutes les négociations, ça a été la colonisation. Jamais, jamais il n'y a eu autant de colonies que depuis que nous avons signé Oslo. C'est quand même très très bizarre pour un pays qui rêve, et je pense que sincèrement les Israéliens sont des gens normaux comme nous. Ils veulent vivre en paix, ils en ont marre de la guerre. Mais il n'empêche qu'il y a eu une sorte de démission d'une bonne partie de la majorité de la population en laissant leurs extrémistes faire ce qu'ils voulaient faire. Et aujourd'hui, on le voit, c'est devenu une question insoluble et les colons sont au gouvernement. Du côté palestinien, ce qui s'est passé, il y a eu, bien entendu, des oppositions internes. Il y a eu des oppositions qui n'étaient pas convaincues du tout et qui pensaient que cette histoire des deux États était une trahison. Pourquoi ? Et comment nous avons pu voter la question des deux États ? C'est un point essentiel. Nous sommes partis d'une conviction et à partir d'une distinction. Sinon, ça n'aurait pas été possible d'adhérer. La distinction, c'était quelle est la différence entre la patrie et l'État ? Quand nous avons été aux négociations, il n'y en a pas un parmi nous qui pensait que la Palestine n'est pas notre patrie. Nous avons été aux négociations convaincus qu'on pourrait accepter que notre État ne soit pas établi sur tout le sol de notre patrie. C'était cela le compromis historique. Moi, personne ne me fera croire que je ne suis pas palestinien. Et je sais où est la Palestine. Mais j'étais prêt à aller à un État qui ne soit pas installé sur toute la Palestine. Et c'est cela le fondement au départ de l'idée des deux États. Donc il y a cette distinction qui n'a pas été acceptée facilement. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que c'est une trahison chez les Palestiniens. Il y a eu autre chose aussi, qui n'était pas simplement de l'ordre. Vous savez, l'idée de dire qui a fait une erreur n'est pas la bonne question. Ce n'est pas une question d'erreur. Ce n'est pas une question de gaffe psychologique ou politique. C'est dans un rapport de force dans lequel les Américains n'ont pas pesé du tout. Quand je dis la responsabilité américaine, c'est qu'ils ont laissé faire et qu'ils auraient pu peser de façon beaucoup plus ferme sur la question des colonies notamment. Nous n'avons pas eu, mais il y a eu une opposition forte palestinienne qui ne veut pas et qui, quelque part, a entravé les décisions du camp qui pouvait dire « on y va ». Parce qu'il y a eu également, nous avons une opinion interne, nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un parti unique avec un mot d'ordre, nous sommes avec des forces très très complexes et très différentes, et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu une paralysie pour avancer. Mais nous n'étions pas non plus, ce n'est pas une question de se dédouaner, nous n'étions pas encouragés pour avancer par le fait que les colonies s'arrêtaient. Donc les colonies, quelque part, ont donné du carburant à ceux qui voulaient nous forcer à ne pas aller de l'avant vers la paix.
Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot, Elias Sambar, de votre rôle d'ambassadeur de la Palestine pour l'UNESCO à partir de 2006. Quel a été ce rôle pendant 15 ans ?
Ça a été tout d'abord le fait que la culture est un levier politique exceptionnel, contrairement à ce que les gens pensent. Ça a été aussi le fait que je me suis obstiné à entrer à l'UNESCO en tant que pays membre et pas en tant qu'une organisation. J'ai eu, si vous saviez, bon, un jour je raconterai tous les détails, le nombre de propositions de pays opposés à la Palestine qui m'ont dit « entre en tant qu'OLP et on vote pour toi ».« Entre en tant qu'OLP et on te donne les budgets ». Je disais « de toute façon, il n'y a pas d'organisation membre à l'ONU, il n'y a que des pays membres. Je suis un pays, je ne suis pas l'OLP, je suis un pays dans lequel il y a une OLP, mais je suis un pays ». Et donc, la Palestine, au bout de cette bataille, qui a été très très dure, pleine de menaces, et arrachée de plein pied de la reconnaissance des États, la Palestine est aujourd'hui membre à part entière en tant que pays. C'est le seul endroit, seule organisation internationale où la Palestine est membre en tant que pays et non pas qu'une organisation. J'ajoute qu'à partir de cette entrée de plein droit, nous avons eu une autre carte formidable qui a été de pouvoir commencer à postuler pour inscrire nos sites au patrimoine universel de l'UNESCO. Là encore, très très vite, ce qui est fondamental pour le patrimoine universel, c'est que vous ne pouvez inscrire que des lieux sur lesquels vous êtes souverain. Donc, quand nous avons inscrit Bethléem, Hébron, Bathyr, nous avons aujourd'hui en cours l'inscription de Jéricho, c'est une reconnaissance internationale du fait que nous sommes souverains sur ces lieux, bien que nous soyons occupés. Donc c'est une première mondiale, un pays occupé et souverain dans les lieux qui y sont occupés.
Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce début 2023, déception, colère, résignation ou autre chose.
Mais vous savez, l'histoire agit souvent par des voies souterraines, invisibles, et peut vous surprendre. Donc si je pensais que les choses sont finies, Et j'ai eu peut-être 20 ou 30 fois l'occasion de le penser pendant 50 ans d'engagement. Je me serais arrêté dès la première fois. Je ne pense pas que ça soit fini. Ça n'est pas fini. Par contre, pour le moment, l'idée qui était très riche, et ça me fait beaucoup de la peine, hein, mais c'est comme ça. Ça y est, c'est réglé. Je prends acte. La question des États, des deux États n'est plus praticable. On ne peut plus la faire pratiquement sur le terrain. Par contre, là, je reviens à mon obsession. La réconciliation doit rester, je ne sais pas par quelle voie, la réconciliation dans l'égalité et dans le respect mutuel doit rester une cible et un chemin à parcourir.
Merci Elias Sambar.
Merci.
Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et comme je vous disais, nous écouterons d'autres épisodes plus tard dans la saison. Nous allons maintenant écouter un web reportage musical absolument magnifique. Il est consacré à un projet intitulé « En présence de l'absence », déjà rien que le titre. C'est un projet de la violoniste libanaise Layale Sheker, qui a été présenté lors de la 12e édition du festival Détour de Babel, le dimanche 20 mars 2022, au théâtre Sainte-Marie d'en Bas, à Grenoble. En présence de l'absence, tente un nouvel éclairage sur le cosmos intellectuel d'Edward Said, en le sublimant par cette nouvelle création musicale. Et dans ce reportage, nous pourrons entendre des extraits d'enregistrements exclusifs et inédits, des récitals de piano de la violoniste Layale Sheker, ainsi que des extraits de sa réflexion sur l'héritage et sur la perte. Vous allez voir, c'est très très beau. Je vous retrouve tout de suite après.
Initié par des enregistrements de piano que Mariam Saïd, donc l'épouse de Edward Saïd, m'avait confié il y a maintenant 2 ans. Donc ce sont des enregistrements inédits de Edward Saïd en train de jouer du piano. J'ai pensé que j'aimerais beaucoup amplifier et faire résonner ces enregistrements, leur insuffler une nouvelle vie. Et donc j'ai commencé à les traiter, à les faire résonner avec des enregistrements vocaux de lui-même, de gens proches à lui. Et je me suis mise à tisser progressivement une sorte de monographie musicale avec beaucoup de différentes couches. Et surtout, j'ai pensé visuellement à une sorte de mise en scène très, très simple où sa présence, la présence absente, pour citer Mahmoud Darwish, le poète palestinien, est symbolisé par un piano et une chaise vide. On réentend ces enregistrements traités qui font écho à des conversations, des lectures, des poèmes et surtout aussi la résonance elle-même du piano, donc qui est vide mais qui résonne quand même quand il y a des musiciens autour du piano qui jouent. Thank you. J'ai toujours été proche de sa pensée. Il a beaucoup influencé ma vie parce que j'ai intégré l'orchestre qu'il avait cofondé avec Daniel Barenboim, l'Ouestiste Divine, et j'ai joué longtemps dans cet orchestre. Sa manière de voir, de comprendre et d'expliquer l'exil et la complexité de l'identité m'a apporté beaucoup de questions que j'avais moi-même en grandissant et en voyageant et en vivant dans beaucoup d'endroits différents sur l'identité. Et donc c'est pour ça que je pense que finalement cette question est universelle, elle résonne avec beaucoup de gens dans notre époque actuelle. Au vu de cela, j'ai voulu vraiment que son discours, qui est autrement quand même très académique, soit lu et entendu différemment à travers la musique, d'une manière un peu plus directe, un peu plus viscérale.
Et l'identité, j'ai dit, il répondit, autodéfense. N'étais-je de là-bas, j'aurais entraîné mon cœur à élever, là-bas, la gazelle de la métonymie. Dans un monde sans ciel, la terre se change en gouffre. Et le poème est l'un des présents de la consolation, l'une des qualités du vent, qu'il soit du sud ou du nord. Crée un point cardinal ou un mirage qui prolonge l'espérance et chante, car le beau est liberté.
Elles viennent presque toutes de la même source, qui sont les enregistrements. Ces enregistrements sont des sonates de Schubert. Donc je reprends les harmonies, je les dissèque, je les transforme, je leur insuffle une nouvelle vie et je les fais interagir avec les nappes sonores qui sont aussi de la même source, qui est celle du piano enregistré.
Voilà, je suis sûre que vous avez beaucoup aimé. Alors, pour terminer cette émission, nous allons écouter encore maintenant un enregistrement d'une émission de France Culture. Cette émission s'appelle La Libre Pensée. Et c'est une émission qui a été diffusée le 9 avril dernier, au cours de laquelle notre camarade de lutte Pierre Stamboul, qui est le porte-parole de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, Pierre nous parle de l'oppression du peuple palestinien. Le thème de l'émission était « L'oppression d'un peuple peut-elle cacher l'oppression d'un autre ?» Le conflit israélo-palestinien est au cœur de cette interrogation. Donc cet enregistrement terminera notre émission. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon été à tous. Merci à Sidi pour le montage de cette émission. Et à bientôt pour à l'écoute de Radio Galère 88.4. Passez de bonnes vacances.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. From the dusty mason, Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Vitot, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Stamboul. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Porte-parole de l'Union juive française pour la paix et auteur de l'ouvrage intitulé « Contre l'antisémitisme et pour le droit du peuple palestinien ». Ma première question sera un peu traditionnelle. Pouvez-vous, Pierre, vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, donc j'ai 72 ans, je suis professeur de mathématiques retraité, j'habite Marseille, je suis militant syndicaliste et je suis un des porte-parole de l'UJFP, donc Union juive française pour la paix. Je vais peut-être juste ajouter quelques mots de mes origines parce que c'est en lien avec le livre dont on va parler. Mes parents étaient des juifs de Bessarabie, un pays qui est aujourd'hui partagé entre la Moldavie et l'Ukraine. Ils étaient communistes, ils sont arrivés en France, ils se sont engagés dans la résistance, la MOI. La famille de ma mère a été pratiquement complètement exterminée. Et mon père était dans le groupe Manoukian, il en est un des très rares survivants. Il a été arrêté et torturé par la police française, livré aux Allemands et déporté à Buchenwald.
Alors parlons maintenant un peu de l'Union juive française pour la paix. Je ne suis pas persuadé que tous nos auditeurs connaissent précisément cette association, et c'est fort dommage. Quelle est son histoire? Quel est son but? Et quelles sont ses actions?
Notre association existe depuis 1994, donc ça fait maintenant 29 ans. Au tout début, c'était sur le slogan « Pas de crime en notre nom ». Et puis, assez rapidement, confronté à la réalité de la situation Israël-Palestine, nous avons découvert l'occupation, la colonisation, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le suprémacisme, l'apartheid. Et donc, nous nous sommes très fortement engagés comme étant la composante juive dans le mouvement de solidarité avec les droits du peuple palestinien. Nous faisons complètement nôtre les revendications de l'appel palestinien au boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël tant qu'il ne respectera pas le droit international, appel qui date de 2005. Et les revendications, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation, la libération des prisonniers, la destruction du mur, la fin du blocus de Gaza, l'égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, et puisque le crime fondateur de cette guerre était l'expulsion préméditée du peuple palestinien, le droit au retour des Palestiniens. Nous sommes une organisation juive antisioniste, antisioniste parce que juive, et j'expliquerai un petit peu quand on va aborder cette question comment pour nous le sionisme n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, mais c'est une atteinte, une injure à notre histoire, à notre mémoire et à nos identités. Et évidemment, nous sommes une association antiraciste. Nous ne mettons pas, je l'expliquerai aussi tout à l'heure, l'antisémitisme comme un racisme à part. Aujourd'hui, nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes, que ce soit le racisme contre les juifs, contre les arabes, contre les noirs, contre les roms ou contre les musulmans.
Eh bien, entrons dans le vif du sujet, puisque vous l'avez abordé. Il est de plus en plus fréquent dans le débat public de mettre un signe égal entre antisionisme et antisémitisme. Vous avez commencé à dire un peu ce que vous en pensiez. Pouvez-vous développer, Pierre ?
Alors d'abord, ceux qui font cette assimilation, c'est un mélange de gens incultes et de gens mal intentionnés, et souvent les deux à la fois. Donc je vais un petit peu préciser, de mon point de vue, ce qu'est l'antisémitisme, ce qu'est le sionisme, et pourquoi nous sommes antisionistes. L'antisémitisme, d'abord, le mot est impropre, c'est le mot de l'ennemi. Les sémites et les ariens, ça n'existe pas. Les races, ça n'existe pas. Le mot sémite, le mot arien, c'est une invention des intellectuels racialistes de la deuxième moitié du 19e siècle, et en particulier de l'allemand Wilhelm Marr qui va inventer ce terme-là. Donc je vais d'abord parler de historiquement ce qui a eu lieu, c'est-à-dire l'antijudaïsme chrétien. Quand le christianisme s'impose en Europe à la chute de l'Empire romain, il va décréter contre les juifs toute une série de de menaces et toute une série de mesures. Il considérera les Juifs comme étant un peuple déicide, comme un peuple qui veut dominer le monde, comme des gens qui commettent des crimes rituels. Il va leur interdire la possession de la terre, il va les enfermer dans des zones qui porteront le nom de Juderia en Espagne plus tard ou de ghetto en Europe. Et cet anti-judaïsme chrétien va provoquer un assez grand nombre de massacres et d'expulsions, les plus fameux étant ce qu'ont commis les croisés avant d'aller massacrer le musulman en Terre Sainte, l'Inquisition, notamment l'expulsion d'Espagne et les centaines de milliers de morts qui l'ont précédé, les Cosaques de Khmelnytsky en Ukraine. Ça, c'est un petit peu les crimes de l'anti-judaïsme chrétien. Et puis apparaît au XIXe siècle, se surajoutant à cela, l'antisémitisme racial. Il y a plusieurs causes. Il y a le début de la sortie des Juifs du ghetto qui fait qu'ils deviennent une minorité visible. Il y a l'explosion des nationalismes en Europe et tous ces nationalistes veulent des États ethniquement purs. Et donc les Juifs, c'est la minorité qui dérange tout le monde. Et puis il y a surtout les thèses racialistes qui se développent avec un certain nombre d'intellectuels. C'est l'époque du colonialisme et on va décréter qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Bien sûr, les Noirs ou les Indiens ou les Arabes vont être des races inférieures. Et en Europe, la race inférieure, ça va être les Juifs. Et cet anti-judaïsme, cet antisémitisme racial va devenir hégémonique en Europe et même va devenir une politique d'État dans l'Empire russe où vivent 60% des Juifs du monde entier à la fin du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le sionisme, qui est une idéologie, donc on arrête de tout mélanger sur juifs et sionistes, et c'est la pire des réponses à l'antisémitisme. D'abord, le sionisme était extrêmement minoritaire chez les juifs, la majorité d'entre eux étaient soit laïcs et souvent socialistes et révolutionnaires, soit religieux, et les religieux étaient à cette époque-là étrangers au sionisme. Le sionisme va d'abord être une théorie de la séparation, qui déclare que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est le contraire de ce que disent les droits de l'homme. Les premiers sionistes vont aller démarcher les antisémites en leur disant « Votre intérêt est le nôtre et le même que les juifs quittent l'Europe ». Herzl fera ça très bien, c'est le fondateur du sionisme. Le sionisme va être une idéologie coloniale et il faut comprendre que Israël, c'est un fait colonial dont la finalité a été décrétée 50 ans avant la Shoah. Ce n'est pas une réponse au génocide nazi. Et le sionisme va copier sur tous les nationalismes européens l'idée d'un État ethniquement pur en niant l'existence et les droits du peuple autochtone qui était le peuple palestinien. Et il va s'allier pour cela à l'impérialisme britannique. Donc c'est une idéologie qui pour nous est complètement contraire à notre histoire. Nous, à l'UJFP, nous sommes un petit peu les héritiers d'une période où la majorité des Juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Donc un État ethnique, c'est totalement contraire à nos valeurs.
Alors votre ouvrage s'intitule « Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien », ce que d'aucuns, par ignorance ou par malveillance, pourraient juger contradictoire, mais il n'en est rien. Alors on va prendre les termes chacun leur tour. Comment lutter contre l'antisémitisme ?
Alors d'abord, il y a une question qui se pose, c'est l'antisémitisme est-il, bon, je prends le mot de l'ennemi, puisque ce mot s'est imposé, est-il un racisme à part ? Il l'a été incontestablement au moment du génocide nazi. Tous les racismes ne mènent pas à l'extermination de la communauté qui est haïe. Mais aujourd'hui, dire que l'antisémitisme en France est plus virulent que le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms ou l'islamophobie, c'est pas vrai. Ne serait-ce que si on regarde en termes de discrimination, il est évident par exemple que les Noirs et les Arabes subissent à l'emploi et au logement des discriminations que les Juifs ne subissent pas. Donc nous évitons totalement tout ce qui pourrait être une concurrence des victimes ou tout ce qui pourrait être une division des gens qui subissent le racisme. Donc pour nous, la lutte contre l'antisémitisme, elle fait partie de la lutte générale contre le racisme avec toutes les victimes du racisme. Et ça explique que l'UJFP soutient évidemment les droits des migrants, soutient les sans-papiers, soutient des gens formidables comme SOS Méditerranée, parce que nous sommes clairement pour le vivre ensemble dans l'égalité des droits et que nous refusons toutes les discriminations. J'ajouterai aussi, parce qu'on dit souvent qu'il y a un nouvel antisémitisme dans les classes populaires. Historiquement, l'antisémitisme, c'est l'extrême droite. Le dénominateur commun de toutes les idéologies de haine et d'exclusion pendant plus d'un siècle en Europe, c'était l'antisémitisme. Et aujourd'hui, c'est l'islamophobie, et c'est pour ça qu'il y a une continuité dans les deux. Et souvent, nous, à l'UJFP, quand nous intervenons dans les quartiers pour défendre la Palestine, les jeunes nous disent « on ne savait pas qu'il y avait des juifs comme vous ». Quand à Gaza, l'Union juive française pour la paix a financé un château d'eau, a financé une pépinière solidaire pour les paysans de Gaza et qu'ils ont inscrit eux-mêmes sur le château d'eau UJFP, on estime qu'on a fait beaucoup contre l'antisémitisme et pour dire que la guerre qui se passe là-bas, c'est une guerre coloniale, ce n'est pas une guerre communautaire ou raciale.
Prenons donc maintenant le deuxième terme de votre ouvrage, comment lutter pour le droit du peuple palestinien.
Alors d'abord, souvent les gens nous disent « cette guerre est compliquée ». Elle n'est pas compliquée, il y a un occupant et un occupé. Il y a eu un véritable nettoyage ethnique qui a eu lieu, il y a eu une conquête coloniale, avec cette particularité que le colonialisme sioniste n'était pas un colonialisme pour exploiter l'indigène, mais c'était un colonialisme pour l'expulser et le remplacer. Donc aujourd'hui, le peuple palestinien vit une situation absolument dramatique, aggravée par la fascisation du pouvoir israélien. Gaza est totalement enfermé par air, par terre et par mer. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem sont confrontés tous les jours à une violence absolue des colons et de l'armée. Donc les aider, c'est comprendre un petit peu comment se passe la situation. Les Palestiniens nous disent souvent, l'issue de cette guerre, elle dépend de deux choses. De notre capacité à nous, société palestinienne, de continuer à faire société, d'éduquer nos enfants, de produire, de faire la fête, de pouvoir vivre. Et de votre capacité à vous, société civile en Occident, d'être suffisamment fort pour obliger vos gouvernements à cesser d'être complices avec l'apartheid israélien. Donc soutenir les droits du peuple palestinien, c'est marcher sur ces deux axes. Par exemple, l'Union juive française pour la paix, nous aidons des tas d'associations palestiniennes, le Théâtre de la Liberté à Jenin, les paysans de Gaza qui ont construit des adductions d'eau, une pépinière, un château d'eau. Nous essayons de toute force qu'ils puissent vivre en tant que société et ne pas devenir ce qu'était le projet sioniste comme les Amérindiens du Proche-Orient ou comme les aborigènes d'Australie. Et puis ici, dans tout le mouvement de solidarité, nous devons imposer à nos gouvernements complices de cesser d'importer les produits des colonies, de cesser de faire des manœuvres militaires avec l'État d'Israël, de cesser de le protéger politiquement et diplomatiquement, de dénoncer l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Bref, c'est ça pour nous, défendre les droits du peuple palestinien. Et j'ai envie de dire que faut comprendre ce qu'on veut faire, nous. Nous pensons qu'il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits, que ce soit ici ou que ce soit en Palestine, et c'est ça que nous défendons en défendant le peuple palestinien.
Alors, j'ai bien conscience que c'est une gageure, puisqu'il nous reste 2-3 minutes environ, mais en guise de conclusion, et donc en très peu de mots malheureusement, j'aimerais vous demander, Pierre, si vous êtes optimiste ou pessimiste, pensez-vous qu'une paix soit possible dans cette région du monde ?
Je vais reprendre un peu ce que disait Michel Warshavsky, qui est un grand anticolonialiste israélien. On n'a jamais vu des privilégiés accepter de bonne grâce d'abandonner leurs privilèges. Donc aujourd'hui, Israël étant un occupant, ce sont les privilégiés. Il ne se passera rien tant qu'Israël ne sera pas sanctionné. Deux fois dans son histoire, Israël a été légèrement sanctionné. En 1957, l'ONU lui a imposé d'évacuer le Sinaï, ça s'est fait instantanément. En 1991, George Bush père a imposé qu'il y ait un début de négociation avec les Palestiniens et il a fait tomber le gouvernement israélien de l'époque et ça s'est fait aussi. Donc il ne se passera rien si nous ne sommes pas capables d'imposer qu'il y ait des sanctions contre l'État d'Israël. Le jour où il y aura des sanctions, alors oui, discuter de ce qui est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a 7 millions de Palestiniens et 7 millions d'Israéliens de juifs israéliens entre Méditerranée et Jourdain et qu'ils doivent vivre ensemble avec les mêmes droits politiques et économiques, discuter sur cette base deviendra possible. Mais il faut les sanctions d'abord.
Eh bien, espérons que l'avenir fera que ce vivre ensemble, comme pour reprendre vos mots, soit possible. Notre émission va bientôt arriver à son terme. Il me reste à remercier notre invité Pierre Stamboul, à remercier Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Étienne Rouche à la technique et Claire Poinsignon à la production. Mais je ne saurais conclure sans inviter nos auditeurs à acheter et à lire votre ouvrage, Pierre, qui s'intitule « Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien » qui est paru aux éditions Sileps. Je crois qu'un autre ouvrage a été publié et qu'un autre va l'être bientôt.
Voilà, je vais faire un peu de pub.
Bien sûr.
L'UJFP a publié un livre collectif qui s'appelle « Parcours de juifs antisionistes ». Ce sont 22 membres de notre association, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des séfarades, des ashkénazes, des qui ont été sionistes, des qui ne l'ont jamais été, et qui expliquent au travers de leur cheminement, pourquoi ils s'engagent contre le sionisme en tant que juifs. Et à la fin de l'année, nous allons faire paraître Antisionisme, une histoire juive. Ce seront 50 grands penseurs depuis un siècle, juifs, qui ont écrit contre le sionisme en tant que juifs.
Eh bien, cet ouvrage sera chroniqué dans La Raison, le mensuel de la Libre Pensée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. J'invite également, sur le même sujet, nos auditeurs à aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle La Situation, qui va être jouée au mois d'avril au Théâtre du Soleil. C'est de Bernard Bloch et c'est une très belle œuvre. Je vous remercie.
Merci.